Entraide.
Choix.
Collectif.
Dignité.
Inclusion.
Clubhouse. Chronique du rétablissement.
Bonjour. Bienvenue dans cette deuxième émission des chroniques du rétablissement en santé mentale, proposée par le Club House Nantais. Je suis Patricia.
Et moi, Lynn. Et nous allons vous accompagner tout au long de cette émission.
Nous remercions tous les membres de la communauté du Club House qui ont participé à la réalisation de cette émission. Le Club House est une association permettant à ses membres, qui vivent avec un trouble psychique, de sortir de l'isolement et de reprendre confiance en eux.
Dans cette émission, nous souhaitons mettre en lumière le rétablissement en santé mentale au travers d'une interview croisée d'une membre du club et d'un professionnel de santé. Nous écouterons ensuite les témoignages de plusieurs membres du Club House qui nous parleront des différents aspects du rétablissement.
En France, plusieurs types d'accompagnement existent pour se rétablir, comme les professionnels de santé et les structures d'insertion. À Nantes, un établissement en santé mentale, le CRESERC, centre de référence de soins d'éducation thérapeutique et remédiation cognitive, aide les personnes vivant avec des troubles psychiques à mieux connaître leur maladie et à mieux vivre avec.
Pour commencer, Joy, membre du Club House, a interviewé pour nous Yves-Antoine Arquette, infirmier au CRESERC, et Nolwenn, membre du Club. Ils vont nous parler du rétablissement, tant par leurs expériences professionnelles que par leurs expériences de vie. Nous nous retrouvons après cette interview.
Pourriez-vous vous présenter brièvement ?
Oui, bonjour, Nolwenn, donc je suis membre du Club House depuis novembre 2022.
Bonjour, Yves-Antoine, donc je suis infirmier en pratique avancée au CHU de Nantes, au sein du centre de réhabilitation, le CRESERC.
Est-ce que vous pouvez donner une définition du rétablissement et quelle est selon vous la différence avec la guérison ?
Alors le rétablissement, pour moi, c'est un processus personnel psychologique qui permet de tenir compte des limites de la maladie pour que la personne qui vit avec un trouble psychique puisse sentir avoir une vie qui lui convienne, qui le satisfasse. Voilà.
Et pour moi, c'est lorsqu'on arrive à vivre avec ses troubles, sa maladie, alors que la guérison, au contraire, on n'a plus de symptômes de la maladie et la vie reprend son cours comme avant.
Quelles sont pour vous les ressources qui permettent le rétablissement ?
Donc moi, j'ai alterné entre hospitalisation et emploi. J'ai pris le temps, à un moment, de prendre soin de moi. J'ai commencé par hôpital de jour, puis centre de réhabilitation psychosociale, en parallèle avec le Clubhouse.
Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nolwenn. Il y a tout un tas de ressources qui ne sont pas uniquement centrées sur les soins, qui sont aussi tout ce qui permet à la personne de se sentir bien, tout ce qui fait en sorte que la personne puisse se sentir accompli dans ce qu'elle fait, donc ça peut être aussi dans les relations avec ses proches, que ce soit de la famille, d'amis, de l'activité physique, par exemple, dans la pratique aussi d'art, on va parler de chansons, de musique, de chant, voilà, c'est tout ce qui permet à la personne de se sentir bien.
Yves-Antoine, as-tu des retours de patients après l'éducation thérapeutique ?
Oui, alors nous, les programmes d'éducation thérapeutique au CRESERC sont des programmes collectifs. Donc en fait, le premier retour des participants, c'est de pouvoir dire « je me sens moins seul avec la maladie, il y a d'autres personnes qui ont le même trouble que le mien ». Et c'est quelque chose qui permet à la personne de se normaliser un peu en disant « je ne suis pas tout seul avec ». Et les autres retours, c'est de pouvoir dire « ok, j'ai une maladie, je sais ce que c'est, j'arrive à faire la différence entre ce qui est lié à la maladie et ce qui est lié à ma propre personnalité ». Donc c'est déjà important en tant que personne de pouvoir dire « maintenant je vis soit avec une schizophrénie, je vis avec un trouble bipolaire » et pas dire « je suis bipolaire ou je suis schizophrène ». Et l'éducation thérapeutique permet également à la personne d'identifier toutes les ressources à pouvoir mettre en place en ayant connaissance des ressources et aussi de savoir ce qui est fragilisant pour soi et du coup comment adapter sa vie en fonction aussi de son état de santé et comment arriver à mieux gérer sa vie dans le quotidien.
Nolwenn, quel est ton retour d'expérience après ta participation au temps d'éducation thérapeutique ?
Donc, au fur et à mesure des années et au mesure de mes expériences, hein, j'ai appris à mieux me connaître, à connaître les phases de ma maladie et donc à avancer dans mon projet personnel et professionnel.
Ce que je voudrais préciser aussi par rapport au retour, c'était le côté partenarial aussi. C'est-à-dire que les personnes qui participent au programme trouvaient qu'il y avait une co-construction des thématiques avec les professionnels qui animaient. Donc ce côté de ne pas être le sachant avec la personne qui ne sait pas, mais vraiment dans un partenariat et dans une alliance thérapeutique.
Merci. Yves-Antoine, quels outils peux-tu proposer aux patients pour l'accompagner dans son rétablissement ?
Alors, dans le centre de réhabilitation psychosociale, on propose des programmes de remédiation cognitive pour aider les personnes à mieux gérer leurs troubles cognitifs, puisqu'on sait que c'est un des principaux facteurs à l'insertion sociale, professionnelle, dans le quotidien. Donc des programmes d'éducation thérapeutique, également un accès vers des pères aidants pour être accompagnés par des personnes qui ont le vécu d'un trouble psychique et qui ont le vécu aussi d'un processus de rétablissement. Voilà, notamment aussi des programmes d'entraînement aux habiletés sociales et que ça peut être en collectif ou en individuel.
Nolwenn, quels ont été les outils qui t'ont aidé dans ton parcours de rétablissement ?
Bien, j'ai mis en place différents accompagnements, que ce soit sur le plan au niveau de la santé médicale, non médicale comme le Club OS, et le suivi pour un projet professionnel. J'ai fait une parallèle entre ces soins, ce qui m'a permis de me rétablir.
Je trouve ce qui est intéressant dans le témoignage de Nolwenn, c'est de dire que les soins sont complémentaires d'autres choses. Et même en termes de soins, c'est que les pratiques orientées à rétablissement, la réhabilitation psychosociale sont complémentaires aussi de ce qui existe déjà en termes de soins.
Et Yves-Antoine, que penses-tu qu'il faut mettre en place pour éviter une rechute ?
Alors éviter la rechute, c'est une grande question. Moi, j'ai du mal à dire à quelqu'un, voilà, ce que vous mettez là en place, vous allez éviter la rechute. Parce que je n'ai pas cette prédiction, je ne peux pas garantir à 100%. C'est plutôt comment aider la personne à mieux prévenir une rechute, c'est-à-dire à pouvoir avoir une capacité à agir sur l'intensité d'une éventuelle rechute, puisque dans les maladies chroniques, ça évolue, il peut y avoir des rechutes. Donc on va plutôt aider la personne à pouvoir identifier ce qui est fragilisant pour elle et identifier ce qui est surtout protecteur. Hein. On travaille beaucoup sur les ressources et sur les forces des personnes, de pouvoir identifier aussi au niveau du réseau qui appeler, quoi faire et quelles sont les modalités à pouvoir mettre en place. Et on peut s'appuyer sur des plans d'action. Nous, on s'appuie sur le plan de crise conjoint.
Et as-tu constaté une évolution tant dans les pratiques médicales que dans celle du rétablissement du patient ces dernières années ?
Alors, effectivement, il y a des évolutions que je trouve favorables. Alors, actuellement, on parle beaucoup de crise en psychiatrie, ce qui est une réalité. Mais il y a également beaucoup de dispositifs qui se mettent en place, de soins, il y a des centres de réhabilitation qui sont mis en place, il y a de plus en plus d'équipes mobiles aussi, de nouveaux dispositifs de soins qui évoluent. Puis en termes de pratiques orientées rétablissement, il y a le Clubhouse, que ça n'existait pas il y a une dizaine d'années encore. Il y a aussi un chez soi d'abord, par exemple. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de la région, au niveau de l'insertion professionnelle, tout ce qui est emploi accompagné, job coach. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place actuellement en France au niveau de la santé mentale. On peut même parler aussi des premiers secours en santé mentale qui se développent.
Pensez-vous tous les deux qu'il y a assez de moyens dédiés au rétablissement en France ? Si oui, lesquels ? Et lesquels seraient à développer ?
Bien, moi, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le système de soins. Au début, j'ai pensé que c'était trop lent. Puis j'ai constaté une amélioration. Des choses se mettent en place, notamment en France, sur la santé mentale. On en parle un peu plus. Il y a des associations comme le Club OS qui en parlent et qui essayent de montrer que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Donc oui, effectivement, je trouve que ça s'améliore. Et j'espère que ça va encore plus s'améliorer afin que les jeunes puissent se rétablir bien plus vite et reprendre une vie bien meilleure.
Alors oui, il y a des moyens qui sont mis en place. Depuis 2019, il y a une instruction ministérielle qui permet le développement des soins de réhabilitation psychosociale avec des pratiques orientées rétablissement. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place, en train de diffuser. Alors bien sûr, c'est jamais assez, ça prend du temps, ça va jamais assez vite, mais les choses évoluent de façon positive.
Nolwenn, est-ce que savoir que l'on peut se rétablir te donne de l'espoir ?
Oui, effectivement, au début, on peut penser qu'on n'a plus d'espoir, hein, qu'on n'ira jamais mieux. Puis au final, à force de rencontrer des gens, des associations, ça nous permet de nous rétablir. Hein, et du coup, comme j'ai dit, il faut toujours garder espoir. Hein, et ça avance, hein, les choses avancent.
Yves-Antoine, as-tu un dernier message à faire passer à nos auditeurs ?
Comme dans le rétablissement, la notion d'espoir, elle est importante aussi pour les soignants. Et c'est important aussi pour les soignants de savoir qu'il y a possibilité pour les personnes accompagnées de se rétablir. C'est aussi un message d'espoir et de donner du sens à son travail.
Merci à vous deux.
Merci bien.
Merci.
Eh bien, merci à vous deux pour... Oui. Merci à vous deux pour ce moment et pour ce retour d'expérience.
Merci.
Merci pour votre invitation, c'était très agréable.
Merci beaucoup à Joy, Nolwenn et Yves-Antoine de nous avoir permis de découvrir la notion du rétablissement au travers de leurs expériences.
Et nous allons maintenant écouter Tristesse de Zao de Sagazan.
Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Marionnettiste et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments. La tristesse me déteste. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions de création, je contrôle tout le reste. Je contrôle. Je contrôle. Je contrôle tout le reste. Je contrôle.
Il arrive des fois que qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse.
Marionnette, on est... Marionnette, on est et on le reste. Marionnette, on est. Ah, je déteste. Je déteste. Ah, je déteste. Je te déteste. Ah, je déteste.
C'était Tristesse de Zao de Sagazan. Je retrouve maintenant Camille, membre du Clubhouse, pour échanger autour d'un outil d'accompagnement vers le rétablissement. Alors Camille, peux-tu nous expliquer ce qu'est la roue du rétablissement ?
Bien sûr Patricia. Alors, la roue du rétablissement est un outil qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé. Elle se présente sous la forme d'un gouvernail à 7 axes. L'image du gouvernail illustre que nous sommes à la barre de notre rétablissement et que nous choisissons notre chemin pour y parvenir, chemin qui est spécifique à chacun. Lorsque nous travaillons sur cet outil, chaque axe possède son échelle de notation qui nous permet d'identifier les axes qui nous semblent prioritaires. Une fois cela fait, nous pourrons travailler sur des actions concrètes et suivre leur évolution. Ce gouvernail touche tous les aspects de la vie en 7 thématiques que nous allons découvrir au travers des expériences des membres du Clubhouse. Nous commençons de suite avec le thème de la vie sociale, c'est-à-dire le contact avec l'autre, comme prendre un café avec un ami ou appeler sa famille. Cet axe est illustré par les témoignages de Laure et Natacha.
Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 33 ans et je vais vous raconter mon parcours. Pendant 20 ans, j'ai été coupée de tout lien social à cause des hospitalisations à répétition, ce qui a entraîné un isolement familial et amical. Quand je suis enfin sortie à 29 ans, je me suis retrouvée livrée à moi-même, dans le monde extérieur, mes seuls liens sociaux étant mon réseau médical. Je souffre de différents troubles, alimentaires, autistiques et j'ai été diagnostiquée TDAH. Le TDAH, qu'est-ce que c'est? Ça signifie trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité mentale et physique. Ça se traduit par des problèmes de concentration, du mal à maintenir des tâches, une faible tolérance à la frustration, des difficultés avec les codes sociaux, des idées qui fusent dans la tête, une instabilité émotionnelle, bouge beaucoup, parle beaucoup et encore d'autres choses. Grâce à mon éducateur spécialisé, j'ai découvert le Clubhouse et ça a été un renouveau pour moi. Ça m'a permis de découvrir des choses comme travailler en groupe, faire des activités que je ne pensais pas faire, me créer des liens sociaux également. Je me suis fait des amis, ce qui était un miracle. Grâce à tout ça, j'ai découvert un rythme de vie normal.
Bonjour, je m'appelle Natacha. Je souffre de troubles psy depuis mon plus jeune âge. Les relations avec les autres en général ont toujours été très compliquées, que ce soit familiale, amicale ou plus tard dans le monde du travail. Petit à petit, après un long parcours et un long travail sur moi, à travers diverses thérapies, j'ai pu apprendre à repérer mes problématiques en santé mentale et ainsi les apprivoiser pour mieux vivre avec. Grâce à tous ces efforts, j'ai pu intégrer plus sereinement le Clubhouse Nantes, avec l'accompagnement notamment de mes psys et du SAMSA, qui est une structure d'accompagnement en santé mentale. Grâce à cela, aujourd'hui, j'ai pu animer un atelier sur des outils de rétablissement au sein du Clubhouse. J'ai aussi créé de nouvelles relations saines, notamment avec le regard extérieur et lucide de Aurélie, staff du Clubhouse Nantes, en rendez-vous individuel. Ces nouvelles relations bienveillantes m'ont encouragée à renouer progressivement et de façon plus apaisée, plus réfléchie, avec certains de mes proches. Ça m'a aussi permis de prendre confiance en moi pour tisser des liens au Clubhouse et à l'extérieur, avec de nouvelles personnes aussi. Petit à petit, je suis sortie de mon mal-être et de mon isolement, ce qui m'a aidée à retrouver une place d'amis et non de malade aux côtés de mes amis les plus proches. Cette vie sociale en reconstruction me permet de continuer mon rétablissement et de me stabiliser. Je peux donc aujourd'hui envisager des projets comme celui de m'engager dans du bénévolat auprès des animaux, par exemple, pour continuer ma réinsertion sociale.
Merci à Natacha et à Laure pour ces beaux témoignages. Je retrouve maintenant Alexis pour échanger sur la capacité d'agir et la reprise de contrôle, c'est-à-dire reprendre le contrôle et la direction de sa vie par le choix de son traitement et des professionnels de santé qui l'entourent, entre autres. Bonjour Alexis, veux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours ?
Bonjour et merci. Dans mon parcours de soins vers le rétablissement, je veux pouvoir consentir sans y être contraint. Connaître les conséquences d'un refus de traitement, par exemple, et s'il y a lieu, les autres options thérapeutiques éventuelles.
Que ne veux-tu pas ?
Je ne veux surtout pas être considéré comme un objet de soins, mais bien comme un sujet de droit.
Quel est ton objectif aujourd'hui, si tu en as un ?
reprendre confiance en moi, est devenu un défi personnel. Il est permanent et cela ne dépend pas des autres. La confiance en soi apporte le courage d'agir et la capacité de s'affirmer, comme savoir dire non. Je veux aussi connaître mes limites, prendre soin de moi, être honnête avec moi-même et avec les autres. Être conscient de ma santé, en sachant reconnaître quand ça ne va pas et réagir comme il faut. Enfin, je veux aussi sortir de mes pensées négatives, qui sont les ruminations et la comparaison.
En conclusion ?
Libre à moi de décider ce que je ne veux pas. Rester sans agir, par manque de confiance en moi ou peur du regard des autres. Ce que je veux, c'est m'épanouir professionnellement, dans le domaine artistique, grâce à l'improvisation théâtrale, le dessin ou bien même l'écriture, quand je serai prêt. J'évite de m'en vouloir et de me rabaisser pour montrer le meilleur de moi-même. Je vous remercie pour votre écoute.
Merci Alexis pour ce témoignage touchant. Nous écoutons maintenant Joy, puis Victoria, pour comprendre l'axe « Explorer son identité ». Apprendre à se connaître, connaître ses valeurs, faiblesses et forces.
Bonjour, je suis Joy, j'ai 26 ans et j'ai des troubles depuis mes 6 ans. J'ai souvent été critiquée pour avoir intégré ma maladie dans mon identité. Une des problématiques quand on a une pathologie, c'est que l'on devient le fils malade, le collègue handicapé, le patient borderline. Les gens ne voient plus l'humain, mais seulement la maladie. J'aimerais que cela devienne un détail aussi futile que la couleur des cheveux ou de la tenue du jour. Il existe aussi l'exact opposé, le refus de la maladie, où l'on va nous demander de cacher tous les symptômes, ou tout simplement d'arrêter d'être malade, à croire que cela est un choix. La phrase qui m'agace le plus est la fameuse « Vous n'êtes pas malade, vous êtes atteint de la maladie ». À ces personnes, j'ai envie de leur rappeler que lorsque l'on a un trouble, les structures du cerveau changent. Dans beaucoup de troubles psy, le cortex préfrontal et l'amygdale, pour ne citer que, sont altérés. Le cerveau étant la base de la personne, si celui-ci est malade, la personne l'est aussi. J'aimerais que l'on arrête de nous dicter quoi faire. Ce n'est pas aux malades de changer, mais plutôt à elles de surmonter leurs craintes et préjugés à notre égard. Les troubles psy sont généralement créés par le cerveau pour survivre à des contextes traumatiques, maltraitants ou autres. Mes maladies m'ont aidé à survivre là où aucun humain ne l'a fait. J'ai personnellement intégré mes maladies à mon identité, j'ai arrêté de les rejeter pour faire plaisir à mon entourage, et j'ai forcé les personnes psychophobes à me considérer dans ma globalité en tant qu'individu. Je suis fière d'être moi.
Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 27 ans et je suis membre du Clubhouse depuis le mois de février. Pour commencer, avoir des troubles psy, c'est très mal perçu par l'extérieur. On associe cela à de la folie, à des comportements imprévisibles, voire violents. Au début de la maladie, je subissais mes changements d'humeur qui ont eu des conséquences sur ma vie sociale. C'était le commencement d'un long parcours du combattant. J'étais éloignée socialement, je me disais que je ne pourrais plus vivre normalement avec mon trouble et que je devais le cacher, par peur du jugement des autres et d'être par la suite étiquetée. C'est un combat de tous les jours. J'ai intégré à présent cette particularité. En comprenant mieux les troubles, je me réapproprie mon identité, j'apprends à vivre avec. Je ne me cache plus auprès de mes proches qui ont également appris et compris. Je parle également avec plus d'aisance de ma particularité auprès de mon entourage. Quand ma santé le permet, j'en profite pour m'investir le plus possible au niveau social, car je sais combien il est douloureux de ne pas être en capacité de vivre pleinement sa vie lorsqu'on rencontre des obstacles. Je suis une personne sociable et j'aime transmettre mes passions. Je m'intéresse à toute une palette de loisirs créatifs et cela est une force que je souhaite retransmettre. Je remercie le hasard d'avoir mis sur ma route le Clubhouse, où je me sens à ma place, incluse et comprise. Merci d'avoir créé ce lieu de réconfort et d'espoir.
Merci à Victoria et Joy pour ce témoignage adorable. La thématique de la santé et le bien-être, prendre soin de son corps et son esprit, sera développée au travers du témoignage de Thomas.
Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis membre du Clubhouse depuis quelques années. Depuis que j'ai eu des problèmes, j'ai mis plusieurs choses en place qui me permettent d'avancer même dans les périodes difficiles. Tout d'abord, l'activité physique. Par exemple, aller faire les courses en marchant, aller à vélo au Clubhouse. Cela stabilise mon poids, car, on le sait, avec les médicaments, la prise de poids est récurrente. Cela fait du bien aussi au mental. Quand je peux, je pratique un sport, ce qui me permet de voir du monde et d'avoir une activité où l'on peut progresser. Ensuite, j'ai arrêté l'alcool car souvent je buvais trop, ce qui m'amenait à des comportements à risque, comme fumer du cannabis ou fumer la cigarette. J'ai donc aussi arrêté la cigarette, ce qui fait du bien à ma santé et à mon porte-monnaie. Puis, j'essaie de faire attention à mon alimentation en regardant la composition des aliments que j'achète. Récemment, j'ai réussi à cuisiner un peu plus. Je cuisine des légumes, par exemple, poireaux, oignons, carottes. Souvent avec quelque chose qui me fait plaisir, comme des pâtes et du pesto. Mais souvent, dans la semaine, je me fais plaisir avec des repas plus gras, pizza par exemple. Je fais aussi de la méditation, 5 à 10 minutes par jour. Je suis donc plus présent dans ce que je fais et je vois les choses qui me contrarient ou qui me font plaisir. J'ai des rendez-vous réguliers avec une psychologue et un psychiatre où je peux exprimer les choses qui sont difficiles à partager en temps normal. Enfin, je dirais que la vie sociale est aussi importante, mais cela a déjà été exprimé dans d'autres témoignages.
Merci Thomas pour ton témoignage. L'axe du sens et des objectifs de la vie, ce qui nous anime spirituellement, notre philosophie de vie, sera illustré par Maëva.
Au Moyen-Âge, on pensait que les enfants étranges étaient des fées, déposés à la place d'un bébé kidnappé par un membre du petit peuple. On les appelait des changelins. Je m'appelle Maëva, j'en suis à 29 rotations autour du soleil. Le jour où j'ai appris l'existence de cette légende, elle a fait sens. J'ai toujours erré seule, dans un monde qui n'est pas le mien, hostile et étranger, avec des coutumes et des manières ésotériques que j'ai encore du mal à comprendre et imiter. C'est épuisant d'évoluer dans cette jungle qu'est l'humanité, où, si l'on ne s'y fond pas à 100%, on nous laisse sur le bas-côté, à mourir en silence. Mon seul réconfort, ce sont les miens, les autres changelins que je croise sur mon chemin. C'est pour eux que je continue à avancer. C'est eux que je veux aider. C'est pour rendre à ceux de mon espèce que l'on dit fou, bizarre, attardé, le réconfort infini qu'ils m'ont offert. Et plus égoïstement peut-être, donner un sens à ce chemin tortueux qui a été le mien jusque-là. Aujourd'hui, si je suis épuisée du monde auquel j'ai désespérément essayé de m'intégrer pour vivre dignement, je nourris l'espoir d'un jour porter leur voix. Prendre les armes, nous organiser, pour à défaut de retrouver le royaume duquel on nous a arrachés, créer le nôtre au sein de cette terre.
Merci Maëva pour ce témoignage féerique. Aurel va maintenant nous parler de l'espoir, se projeter dans l'avenir et y croire.
Bonjour, je m'appelle Aurel. Je suis membre du Clubhouse depuis 2 ans. Pour moi, l'espoir déclenche le rétablissement. Je me reconnais dans le point de vue de Patricia Deegan, une chercheuse américaine vivant avec une schizophrénie, qui dit que le rétablissement, c'est une attitude, une façon d'aborder la journée et les difficultés qu'on y rencontre. Cela signifie que je sais que j'ai certaines limitations et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais plutôt que de laisser ces limitations être une occasion de désespoir, une raison de laisser tomber, j'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, je m'ouvre aussi aux possibilités liées à toutes les choses que je peux faire. Quand j'arrive au Clubhouse, je retrouve de l'apaisement, de l'écoute en échangeant avec les autres. Ça me permet de me sentir utile. Les différentes tâches proposées dans la journée mettent de côté mes pensées négatives. Le Clubhouse évite les hospitalisations en étant entouré dans un cadre bienveillant. Cette routine me permet de ne pas perdre espoir dans mes capacités et mes aptitudes.
Merci Aurel pour ton témoignage plein d'espoir. Et enfin, nous retrouvons Cassandre pour témoigner sur l'inclusion communautaire, trouver sa place dans la société, tant au niveau économique que culturel.
Bonjour, je m'appelle Cassandre. En état dépressif depuis 2017, j'essaye de me réintégrer doucement dans la société. Avec le Clubhouse que j'ai intégré il y a plus d'un an, j'ai pu enfin déterminer mon objectif professionnel à venir. Pour septembre 2024 et les 3 années à venir, je souhaite intégrer une école de théâtre pour me former au métier de comédienne. Avoir de nouveau un travail que j'aimerais profondément est très important pour mon équilibre, mon bien-être et ma santé mentale. Le club est vraiment une grande communauté remplie de bienveillance et de respect. Grâce à cette association, où je vais environ 3-4 fois par semaine, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais y rester de 9h à 17h30, comme en milieu professionnel. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant de me dire Finalement, j'arrive à tenir sur toute la journée, alors que je ne m'en sentais pas capable quelques mois auparavant. Aussi, en 2023, j'ai réussi, avec l'aide de mes proches, à trouver un nouveau logement plus proche de ma famille, de mes amis et du centre-ville pour aller au clubhouse. Plus proche de Nantes, je peux aussi avoir un accès plus rapide à des cours de théâtre. J'en suis actuellement deux cette année. Cette proximité à un choix diversifié de plusieurs activités est très agréable. Ainsi, pour conclure, même après une dépression très sévère, j'arrive enfin à me réintégrer dans des groupes. C'est un nouveau départ pour moi, mieux vivre avec mon trouble psychique tout en me réinsérant socialement et surtout professionnellement dans la société.
Nous remercions tous ces intervenants d'avoir partagé leurs expériences personnelles afin de nous présenter la roue du rétablissement.
Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette émission. Le temps pour moi de remercier tous les membres du Clubhouse ainsi que la technique de Jet FM qui ont permis de réaliser cette émission sur le rétablissement en santé mentale. Vous pouvez retrouver cette émission et la précédente en podcast sur le site castopod.jetfm.fr. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Jet FM ou au club.